Cette campagne s'adresse à une seule communauté. C'est une campagne communautariste et ce n'est pas une façon de faire de la politique envers tous les Belges.
Car elles vont, disent-ils, dans le sens de l'intérêt général de la communauté nationale.
Depuis dimanche soir, l'Europe s'inquiète de la montée du populisme.
Nous écrivons l'histoire sociale dans nos luttes. Nous appartenons à la même classe. La classe travailleuse.
Il semble que ce soit là l'aboutissement d'une longue histoire, l'histoire des compromis à la belge.
Cet été, je me suis dit que ça valait la peine de prendre un peu de temps pour revenir sur des mots. Des mots qui sont là, omniprésents dans le débat public. Des mots qu'on s'envoie à la figure, comme populisme. Des mots qu'on brandit, comme lutte des classes. Des mots qui claquent, comme intérêt général. Je vous propose de prendre un peu de temps, le temps des mots, pour mieux comprendre que derrière se cachent des concepts souvent discutés, des significations multiples, des valeurs différentes. Je vous propose de surmonter les évidences. Et si derrière les mots, on trouvait des questions de principe? Deuxième mot de notre série, lutte des classes. Depuis quelques années, avec la montée en puissance du PTB, l'expression « lutte des classes » fait un grand retour dans l'espace public. Alors évidemment, qui dit « lutte des classes » dit Karl Marx. Enfin, oui et non.
Oui, alors, c'est pas Karl Marx qui a inventé le concept de lutte des classes. Il l'a popularisé.
Justine Lacroix est professeure d'histoire de la pensée politique et de théorie politique à l'ULB.
Il l'a popularisé parce qu'on trouve déjà le concept à la fin du XVIIIe siècle et chez certains au début du XIXe, chez des historiens libéraux de la Révolution française. Mais bon, peu importe. Celui qui va populariser la notion de lutte des classes, c'est évidemment Karl Marx.
Retenons déjà que le concept de lutte des classes a été inventé par des libéraux. Eh oui, mais que c'est bien Karl Marx qui va lui donner le sens qu'il a aujourd'hui. Tentons donc une définition avec Xavier Dupré, économiste et marxiste assumé.
Alors, il existe en tout cas une approche qui est celle de Marx notamment, qui va viser à dire que la conflictualité sociale est le moteur de l'histoire. Alors, si on est dans l'approche marxienne ou marxiste, peu importe les termes, on est en tout cas obligé, on est convoqué à une analyse matérialiste. Est-ce que ça s'est produit matériellement? On a effectivement vu que le passage des temps modernes à l'ère contemporaine, des monarchies de droit divin à la démocratie libérale, s'est faite dans la foulée d'un renversement d'hégémonie de classe. La bourgeoisie est devenue la classe dominante des sociétés occidentales au détriment de l'aristocratie. Dans la vision de Marx, la lutte des classes qui traverse nos sociétés modernes, eh bien la conflictualité capital-travail, celle qui oppose les possédants, les détenteurs des moyens de production, à ceux qui sont des salariés.
Plusieurs choses importantes ici. La lutte des classes, chez Marx, découle d'une observation de l'histoire. Notre histoire. Et cette histoire aurait un moteur principal, central, le conflit entre la classe dominante et la classe dominée. Ce conflit a pris des formes différentes qui, dans le capitalisme, se matérialiseraient par l'opposition entre ceux qui possèdent le capital et puis ceux qui n'ont que leur force de travail. Cette conception a été formulée dans un texte célèbre, le Manifeste du Parti communiste, écrit à Bruxelles en 1848.
Je crois que cette première phrase de la première section du Manifeste du Parti communiste rédigée ici à Bruxelles en 1848 continue encore à résonner dans nos oreilles, y compris dans mes oreilles.
Philippe Van Parijs, philosophe, professeur à l'UCL.
L'histoire de toutes les sociétés jusqu'ici est l'histoire de la lutte des classes, et ça sous un titre de section qui est « Capitaliste et prolétaire ». Et alors, on ne peut pas nier l'importance de ce clivage entre ces deux classes, hein, ceux qui détiennent le capital et ceux, les prolétaires, qui n'ont rien d'autre que leur force de travail, l'importance de ce clivage dans l'histoire de nos sociétés capitalistes depuis qu'elles existent et telles qu'elles continueront à exister aujourd'hui à travers le monde. Parce que on a eu quelques grosses expériences socialistes à travers le monde, mais avec un retour au capitalisme même dans la plupart de ces sociétés-là.
Bien, voilà pour la lutte des classes chez Marx. Une loi de l'histoire, donc. Mais cette loi de l'histoire est censée prendre une tournure particulière en régime capitaliste.
Quelle est la spécificité de la lutte des classes contemporaine pour Marx, enfin de celle du 19e siècle, au fond, il dit c'est que la classe dominante,
Justine Lacroix,
la bourgeoisie, au fond, a simplifié cette lutte des classes. C'est-à-dire qu'il montre que dans la période féodale, il y avait plusieurs strates, si vous voulez, entre les seigneurs, les serfs, et qu'elle a, au fond, simplifié les antagonismes. Pourquoi ? Parce qu'on a une classe bourgeoise qui s'est appropriée les moyens de production et les prolétaires. Alors, c'est qui les prolétaires ? Ce sont ceux qui ne possèdent pas de moyens de production et qui, donc, sont obligés de vendre leur force de travail. Et donc, le travail humain devient une marchandise comme une autre.
Mais au fond, depuis le début de cet épisode, on a beaucoup parlé de classes. Mais on n'a pas encore dit pourquoi elles sont en lutte, ces classes. C'est le point central qui donne toute sa puissance à la pensée de Karl Marx.
Marx construit, au fond, toute une théorie de l'exploitation, si vous voulez, où il va montrer, au fond, comment l'entrepreneur capitaliste paye le travailleur, mais il le paye moins que la marchandise produite par le travailleur. Et donc l'exploitation capitaliste, pour Marx, c'est ça, c'est ce vol de temps. Le travailleur n'a pas droit au produit de son travail, il y a une partie qui est en quelque sorte le vol de temps qui va alimenter la machine capitaliste. Et la lutte de classe, si vous voulez, elle va naître du fait que les entrepreneurs vont se livrer une concurrence de plus en plus effrénée qui va conduire à des crises de surproduction. D'où son appel à l'organisation des travailleurs pour renverser. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour Marx, au fond, la révolution prolétarienne mettra fin, une bonne fois pour toutes, à la lutte des classes. Pourquoi ? Parce qu'il dit, au fond, toutes les révolutions antérieures, révolution bourgeoise, révolution féodale, se sont toujours faites par une minorité au profit d'une minorité. Alors que le prolétariat constituant l'immense majorité de l'espèce humaine, eh bien, ce sera une révolution de l'immense majorité au profit de l'immense majorité. Ce sera l'abolition de la lutte des classes.
Donc, au point où on en est, la lutte des classes est censée conduire inéluctablement à la révolution, à la fin de l'histoire. La principale critique envers le concept de lutte des classes est que cette révolution n'a pas eu lieu, ou n'a pas eu lieu à l'échelle prévue. Les marxistes diront « pas encore eu lieu ». L'autre critique contre la lutte des classes relève qu'elle serait intrinsèquement violente et contraire à la démocratie. Faut-il donc jeter la lutte des classes à la poubelle ? Xavier Dupré, économiste, penseur marxiste, est convaincu du contraire.
Alors, je voulais simplement attirer l'attention sur le fait que cette année, on fêtera le 50e anniversaire du renversement de l'unité populaire au Chili de Salvador Allende, parti socialiste chilien qui était organisé terriblement sur la base de la lutte des classes et qui n'a jamais prôné la violence de masse pour conquérir le pouvoir. Salvador Allende a été élu démocratiquement et il a été renversé contre la lutte des classes, contre l'émancipation de la classe ouvrière par la lutte sociale, par un coup d'État qui a rétabli le capitalisme, le libéralisme économique et pas le libéralisme politique. Donc, effectivement, il y a moyen d'échapper à la dynamique. Enfin, si vous voulez, la lutte des classes ne nécessite pas nécessairement la lutte armée. Ça, c'est très clair.
D'accord. La lutte des classes ne nécessite pas de la lutte armée. Mais Marx lui-même n'était-il pas convaincu que la révolution, produit de la lutte des classes, passait par la violence et la dictature du prolétariat ?
Alors, je crois qu'il faut revenir sur le contexte dans lequel Marx dégage et fait opérer ses concepts. Il faut se rendre compte que, tout de même, Marx écrit à une époque où les syndicats sont interdits dans l'immense majorité des pays qui s'industrialisent, où il n'y a pas de suffrage universel, et donc quelque part où il y a une exclusion de fait des producteurs, des ouvriers, de ce salariat, de ce 20-25% de la population qui est salariée. Donc de ce fait, évidemment, est-ce qu'il anticipe autre chose que de la violence ? En fait, c'est un matérialiste. Il ne voit pas autre chose que de la violence. Le système institutionnel qui est là autour de lui, qui est celui de la bourgeoisie dominante à l'époque, ne permet pas autre chose que cette violence à l'époque. Par la suite, la lutte des classes, le développement de la lutte des classes, va permettre, et c'est tout, enfin, sous Bismarck en Allemagne, de connaître l'émergence de lois sociales, plus tard le suffrage universel, En fait, j'ai presque envie de dire ceci. La lutte des classes a permis, dans nos sociétés occidentales, un approfondissement de la démocratie.
Bon, voilà, on l'aura compris, le concept de lutte des classes reste très discuté. Mais il mérite plus que des caricatures qui en sont faites, à droite comme à gauche d'ailleurs. Demain, on se plonge dans les entrailles d'un autre mot, communautarisme.